Bien vu au professeur Bernard Grandjean de Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie de Genève. C'est un homme qui a eu des études littéraires d'allemand, d'anglais, d'hébreu, de grec, de latin. Il a passé ensuite à la théologie et il s'est intéressé à beaucoup de domaines, aussi bien dans le passé, dans le Moyen-Âge, qu'aujourd'hui, et qui a réfléchi au défi de Luther en ce temps-là et comment ce défi est entendu aujourd'hui. Je vais tout de suite donner la parole, vous permettre ensuite de poser de bonnes questions et bonne soirée. Je ne sais pas, Laurent Gabella avait dit qu'il y avait la conférence sur Payard, que les Hiverdomains avaient l'ADN de Payard en eux. Alors j'ai l'impression qu'ils ont aussi l'ADN de Luther, de Calvin. Bonne soirée.
Merci, cher Bernard Martin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de cet accueil somptueux dans le château d'Yverdon. Après l'année 2017 et toutes les festivités qui ont eu lieu, nous pouvons peut-être à juste titre penser que nous savons déjà tout sur la réforme. Mais les historiens sont parfois, mesdames et messieurs, des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui viennent remettre les choses en question. Voyez, raconter le passé, c'est d'abord faire un récit. Mais dans tout récit, si la chose qu'on raconte a son importance, la personne qui raconte cette chose a aussi son importance. Il y a de bons contes qui sont racontés par de mauvais conteurs. Et il y a des sujets d'histoire à propos desquels un certain nombre d'historiens ont pu et peuvent encore se tromper. Alors, à propos de la réforme, nous n'allons pas parler de tout, mais j'ai retenu pour vous quelques idées fausses qui traînent encore aujourd'hui sur la réforme. Si on était aux États-Unis, on dirait que ce sont des fake news. Vous savez, ces fake news dont le New York Times est plein, si on en croit le président actuel des États-Unis d'Amérique. Alors Bernard Martin, le pasteur Martin qui m'a invité, m'a donné une injonction très difficile à suivre. Il m'a dit qu'il fallait bien sûr être sérieux pour faire comprendre ce que c'est la réforme dans son idée authentique, mais qu'il fallait en même temps ne pas dédaigner l'humour. En d'autres termes, on me demande d'être à la fois sérieux et humoristique. C'est dire que je n'arriverai de toute façon pas et que je vais au devant d'un échec. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Vous voyez, un peu comme si mes parents disaient à leur enfant « Je t'ordonne de me désobéir ». Quoi que fasse l'enfant, il a tort. C'est-à-dire peut-être pour ça que les parents ne disent jamais ces bêtises à leurs enfants. Mais en l'occurrence, je vais essayer, au-delà de cet échec programmé, de faire comprendre deux ou trois choses de la réforme à propos de quelques idées fausses qui traînent encore aujourd'hui. La première de ces idées fausses, elle est tout à fait mineure en importance et nous la prendrons, si vous le voulez bien, en guise d'apéritif. Vous avez tous entendu parler de Luther le 31 octobre de l'année 1517 qui prend une affiche, qui prend des clous, qui prend un marteau et qui vient placarder sur la porte de l'église du château de Wittenberg de notre synthèse sur la vertu des indulgences. Un grand historien allemand de l'entre-deux-guerres ou du début du XXe siècle, Adolf von Harnack, avait même dit, on est dans les années 1920 quand il écrit cela, qu'au moment même où retentissent les coups du marteau de Luther contre la porte du château de Wittenberg, eh bien, c'est la fin du Moyen-Âge et le début de la modernité. Voyez, Luther sort de chez lui, nous sommes encore au Moyen-Âge. Luther dit bonjour à quelqu'un, c'est encore un salut médiéval. Luther affiche ses thèses et c'est aussitôt la modernité. Minute, mais même à quelle année
le Moyen-Âge a pris fin.
Ce d'autant moins qu'on n'est pas sûr du tout que Luther ait affiché des thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Pourquoi ? Eh bien, parce que la première fois qu'on en entend parler de cet affichage de thèse par Luther, c'est en 1546. Vous voyez, nous sommes en 2018. Imaginez qu'on entende aujourd'hui parler d'un événement de 1989 dont jamais personne n'aurait parlé auparavant. Les historiens auraient quelques raisons de se demander si cet événement dont personne n'a parlé pendant presque 30 ans est bel et bien un événement historique. Il se trouve que Mélenchon, l'ami de Luther, au moment où Luther vient de mourir, écrit une vie de Luther. Mais Luther n'est plus là pour lui dire « Non, mon ami, ça ne s'est pas passé comme ça. » Luther vient de mourir. Et Mélenchon, pour la première fois, parle de Luther en train d'afficher ses thèses. Luther lui-même n'en a jamais parlé. Que s'est-il passé ce jour-là que Luther a bel et bien écrit des thèses sur les indulgences? Luther a envoyé ses thèses à son archevêque, l'archevêque Albert de Mayence. Et puis Luther les a confiées à l'un de ses amis imprimeurs de Wittenberg, parce qu'il y avait à Wittenberg, petite ville universitaire, un certain nombre d'imprimeurs. Ces imprimeurs se sont rendus compte qu'ils avaient affaire là, à un brûlot, et ils ont diffusé ces thèses. Rien n'empêche d'imaginer que dans les jours qui ont suivi, car on imprimait très vite à l'époque, rien n'empêche d'imaginer que des étudiants de Luther soient allés placarder ces thèses, qui d'ailleurs avaient été imprimées seulement sur un côté, recto simple, pour qu'on puisse précisément les afficher. Mais quant à faire de Luther celui qui brandit lui-même le marteau, c'est là, je crois, une image d'Épinal qui ne résiste pas forcément à l'analyse historique. Tout cela, vous en conviendrez, relève de la péripétie. Après tout, que Luther ait ou non affiché ses thèses avec un marteau contre la porte du château de Wittenberg en 1517, est somme toute un détail qui a peu de signification. Mais regardons maintenant quelques autres de ces idées fausses. Parce que même si vous me dites être convaincu que peut-être bien que Luther n'a pas affiché ses thèses, vous avez sans doute, surtout après l'année anniversaire dont nous sortons, considéré qu'une chose est sûre entre toutes, c'est que la naissance de la réforme a eu lieu en 1517. Mais même cela, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'affirmer. Vous savez, quand on parle de naissance, eh bien, c'est qu'il y a eu avant une gestation. La vie ne commence pas au moment même où les poumons s'ouvrent à l'air. Quelle a été la gestation de la réforme? Vous mesurez bien que c'est un problème qu'il est très difficile de cerner. Il se peut bien que l'idée de la réforme soit déjà présente quand Luther donne des cours à ses étudiants. Dans cette toute jeune université de Wittenberg, elle a été fondée en 1505, une université qui a 10 ans à peu près. Eh bien, on voit que quand Luther, dans les années 1515, commente l'épître aux Romains, eh bien, il y a déjà dans cette épître un certain nombre d'idées fausses de la réforme. Mais d'ailleurs, on pourrait imaginer d'autres dates pour la naissance de la réforme. On pourrait imaginer, je vous proposerai trois possibilités. D'abord, le 15 juin 1520. En 1520, Luther commence à être déjà très connu. Il publie des textes, des grands textes de l'année 1520 qui vont connaître une grande diffusion et qui vont attirer sur lui l'attention du monde entier. Luther va faire l'objet d'une bulle pontificale du pape Léon X, une bulle qui le menace d'excommunication s'il continue ainsi sur la mauvaise pente. Une bulle qui menace d'excommunication. Je ne sais pas si vous êtes amateur de football, mais c'est un peu comme quand l'arbitre met la main à sa poche et brandit un carton jaune parce qu'un joueur a commis une erreur. Eh bien, si le joueur répond à l'arbitre « Ton carton jaune, tu peux te le mettre où je pense. » Que va faire l'arbitre ? Il n'a pas d'autre solution que de mettre la main dans une autre poche et de brandir cette fois un carton rouge. C'est exactement ce qui est arrivé à Luther. Le carton jaune, c'est cette bulle qui le menace d'excommunication. Luther, le 10 décembre 1520, avec ses étudiants, brandit cette bulle aux portes de la petite ville de Wittenberg et organise un bûcher. Et il va solennellement brûler la bulle qui le menace d'excommunication. Dans le langage du football, Luther est en train de dire à l'arbitre « Voilà ce que je fais de ton carton jaune. » Et on pourrait considérer qu'effectivement, là, Luther atteint un point de non-retour et que la réforme commence bel et bien à ce moment-là, au mois de décembre 1520. Mais vous imaginez qu'on s'est empressé de rapporter à Rome ce que Luther avait fait de ces deux bulles de menace. Et le carton rouge est tombé avec une bulle du mois de janvier 1521 qui pourrait elle aussi marquer le début de la réforme puisque la papauté condamne Luther. Une fois que Rome a pris sa décision, il n'y a plus rien à faire ici-bas. Les canonistes, à la fin du Moyen-Âge, avaient un adage qui tient en quatre mots latins, tellement facile qu'on n'a probablement pas besoin de les traduire. Quand Rome a parlé, l'affaire est conclue. Roma locuta, causa finita. Rome a parlé. Mais il se trouve que Luther dispose d'un certain nombre d'appuis politiques, en particulier l'électeur de Saxe. Et cet électeur de Saxe, Frédéric, va obtenir, à titre tout à fait exceptionnel, que Luther ait tout de même une dernière chance. Il va obtenir que Luther puisse se défendre devant l'empereur Charles Quint soi-même. Et devant tout ce qui compte en matière d'autorité politique et d'autorité ecclésiastique dans l'Empire. Et quand on dit son nom à toutes lettres, c'est encore plus impressionnant dans le Saint-Empire romain germanique. L'empereur Charles Quint est probablement le personnage politique le plus puissant que la Terre ait jamais connu à cette époque. C'est le premier qui peut dire qu'il règne sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Car avec l'Espagne, il a des colonies en Amérique. Il a aussi des comptoirs en Asie. Et tout cela, c'est cet immense Saint-Empire romain germanique qui se réunit en Rhénanie, à Worms. Avec l'empereur, il y a tous les princes de l'Empire. Certains de ces princes de l'Empire, ce sont des hommes politiques. Mais d'autres princes de l'Empire, ce sont les évêques les plus puissants. Et ces évêques sont là, autour de Charles Quint. Il y a un certain nombre de théologiens. Le plus redoutable d'entre eux est probablement Johannes Eck, de la faculté d'Ingolstadt, en Bavière. Et c'est devant cet aréopage de sommité que Luther vient se présenter et vient se justifier. Nous sommes au mois d'avril de cette année 1521. Il arrive à Worms le 16. Le 17, on lui intime l'ordre de se rétracter et Luther, à ce moment-là, a une idée de génie. Il se rend bien compte que son avenir va se jouer dans les minutes qui viennent. Et il demande un délai d'une nuit de réflexion. Il dit, écoutez, cette question est trop importante, je demande à pouvoir vous répondre demain. Et le lendemain, le 18 avril de cette année 1521, pourrait bien marquer le début de la réforme. Parce que si la réforme a une dimension théologique,
Luther exprime sa conviction théologique.
Si la réforme a une dimension ecclésiastique, eh bien Luther parle devant les évêques et les théologiens de l'Église. Si la réforme a une dimension politique, eh bien Luther, précisément, est devant tout ce qui compte en matière de pouvoir politique dans l'Empire romain germanique. Alors, vous voyez que la réforme pourrait avoir d'autres dates de naissance. Pourquoi célèbre-t-on la réforme en 1517? Eh bien, il faut le reconnaître, on le doit à un coup de génie de la faculté de théologie de Wittenberg un siècle plus tard. Transportons-nous dans l'Europe de 1617. C'est une Europe qui est traversée par des conflits qu'on sent particulièrement menaçants. Et pour cause, la nuit suivante va éclater une guerre qui durera 30 ans, et qu'on appellera précisément de ce nom-là. En 1617, on ne sait pas encore que cette guerre durera si longtemps. On ne sait pas encore qu'elle fera des millions de morts dans toute l'Europe, en particulier en Allemagne, en particulier en Alsace, en particulier en Pologne, en particulier en Scandinavie. Eh bien, la faculté de Wittenberg a l'idée de célébrer l'anniversaire de la réforme. Alors c'est une idée qui nous paraît tout à fait banale, parce qu'aujourd'hui, nous n'arrêtons pas de célébrer des anniversaires. Vous voyez, 2018, c'est le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, personne encore en Occident, n'avait eu l'idée de célébrer l'anniversaire d'un élément politique. Personne n'avait eu l'idée de célébrer l'anniversaire de quelque chose qui n'était pas simplement la naissance d'un individu. Vous voyez, en 1615, il n'est venu à l'idée de personne, ça aurait été totalement incongru de célébrer le 100e anniversaire de la bataille de Marignan. Il est vrai qu'il y avait un précédent, mais c'était il y a très longtemps, au 3e siècle. Un empereur romain qui s'appelait Philippe l'Arabe a célébré le 1000e anniversaire de l'Empire. Mais c'était la seule exception. Pour ce qui est de l'Europe moderne, c'est en 1617 qu'est née, et ça a été à Wittenberg, cette maladie qui consiste à célébrer les anniversaires régulièrement. Et de lors que la faculté de Wittenberg a célébré cet anniversaire, toutes les villes protestantes d'Allemagne se sont dit qu'il fallait aussi célébrer l'anniversaire de la réforme. Et voilà toutes les villes luthériennes qui en cœur célèbrent l'anniversaire. Et puis voilà que dans le Palatinat, à Heidelberg, une ville calvinienne se dit « nous allons aussi célébrer cet anniversaire ». Aussitôt, les luthériens froncent les sourcils, parce que l'affaire de la réforme, ça concerne les luthériens et pas les calviniens. Mais le mouvement était lancé. En 1717, on célébrera les 200 ans de la réforme. En 1817, les 300 ans. En 1917, on célébrera là aussi la réforme en Allemagne et en France. Même qu'en France, en pleine guerre, la Société de l'histoire du protestantisme français organisera une manifestation commémorative pour le 4e centenaire de la réforme, au cours de laquelle on ne prononcera pas une seule fois le nom de Martin Luther. Parce que Martin Luther, c'est l'Allemand, c'est le Bosch, c'est l'ennemi. Donc, célébrer la réforme sans mentionner Luther, ça a été en tour de force en 1917. Donc voilà, le pli a été pris, mais on aurait tout aussi bien pu imaginer que la date de la réforme, la date de naissance de la réforme, serait non pas 1517, mais peut-être une autre date, comme 1520 ou 1521. Peu importe, après tout, nous sommes là encore dans des choses qui sont relativement mineures. J'aimerais vous proposer une troisième idée fausse, celle selon laquelle Luther, avant tout, s'en est pris à ce qu'on appelle les abus de l'Église.
Il y a plein de choses qui vont mal dans l'Église.
Nous n'avons qu'à corriger cela. Ouvrez le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 ou au chapitre 4. Vous verrez, en quelques versets très ramassés, une description presque paradisiaque de l'Église. Tout le monde, toute la communauté était d'un seul cœur et d'une seule âme. Chacun venait avec tous ses biens, de sorte qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Et puis, on allait chaque jour célébrer le Seigneur, et chaque jour le Seigneur adjoignait des foules de gens à cette première communauté chrétienne. Voilà l'Église idéale. Et celle dans laquelle on vit au XVIe siècle, peut-être aujourd'hui, force est de constater qu'elle ne ressemble pas en tout point à celle des Actes des Apôtres. Donc, il faut la réparer. Mais comment dit-on réparer en latin ? Réformare. Quand votre maison menace de tomber en ruine, vous allez la réformare. Si votre barrière menace de s'écrouler, vous allez réformer votre barrière. Si votre canalisation a des fuites, vous allez réformer la canalisation. C'est tout simple, c'est un mot qu'on emploie tout le temps, aussi souvent que notre mot de réparer. Alors si on veut être plus distingué, on dira restaurer. Mais quand on restaure le château d'Yverdon, d'une certaine façon, on répare ce qui doit l'être. Au XVIe siècle, on aurait dit réformer. Tout le monde parle de réforme. À la vérité, il y a peu de concepts qui soient aussi banals que celui de réforme. Il y a des abus dans l'Église, tout le monde le sait. Au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, le cistercien, a voulu réformer un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Par la suite, au XIIIe siècle, quand le roi de France, Louis IX, seul Louis, envoie des gens pour réparer ce qui doit l'être dans son royaume, ces gens s'appellent des réformateurs. Et par la suite, vous avez à la fin du XIVe siècle en Angleterre un homme qui enseigne la philosophie à Oxford, John Wycliffe, qui veut réformer un certain nombre de choses dans l'Église et en particulier mettre la Bible à la disposition des gens, si possible dans leur langue. Au début du XVe siècle, vous avez un prêtre à Prague qui s'appelle Jan Hus, qui veut réformer ce qui ne va pas dans cette Église à laquelle personne ne comprend plus rien, parce qu'à la tête de l'Église, il n'y a pas un pape, il n'y a pas deux papes, mais il y a trois papes. C'était entre les années 1409 et 1414. Et après tout, Hus va plus loin en disant, mais rien n'indique qu'on ait besoin d'un pape à la tête de l'Église. Et on voit d'ailleurs que quand il y en a un, il y en a un deuxième qui veut se mettre dans la partie, et puis tout va de travers. Hus va être condamné par un concile. Le concile de Constance, qui se réunit de 1414 à 1418. Très facile de se rappeler les dates du concile, c'est le concile de 1418. Eh bien, ce concile vise une chose, « Reformare ecclesiam in capite et in membris », réformer l'Église dans sa tête et dans ses membres. Dans sa tête, c'est-à-dire dans sa structure, et dans ses membres, c'est le peuple de Dieu. Plus tard, au XVIe siècle, il y aura entre 1515 et 1517 un autre concile à Rome, le concile de Latran numéro 5, qui n'aura pas d'autre perspective, pas d'autre volonté que de réformer l'Église. Voyez, le concept de réforme de l'Église est un concept qui traîne partout. Donc, dire de Luther qu'il a voulu corriger des abus dans l'Église, c'est, je crois, passer à côté de l'essentiel. Quel est cet essentiel pour Luther ? C'est suffisamment important pour que vous acceptiez maintenant une citation de Luther qui date de l'année 1545. Luther, à ce moment-là, écrit une préface pour un livre qui va reprendre un certain nombre de ses œuvres en latin. Et dans cette préface, il va exprimer la découverte fondamentale qu'il a faite. Et vous allez le voir, cette découverte, c'est d'abord une découverte grammaticale. Si l'on veut faire de la théologie, il faut regarder les textes de près. Et Luther regarde de très près le texte de l'Épître aux Romains, et dans cet Épître aux Romains, il va faire une découverte. De quoi s'agit-il ? Écoutons Luther. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup veillé, j'ai beaucoup transpiré sur le texte de l'Épître aux Romains, dit-il, jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié de moi, alors que je méditais jours et nuits, je remarquais l'enchaînement des mots. Nous sommes dans le troisième chapitre de l'Épître aux Romains. La justice de Dieu est révélée en Jésus-Christ. Comme il est écrit, le juste vit de la foi. Entendez bien ces mots. La justice de Dieu est révélée en lui. Alors, dit Luther, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ceci. Il s'agit de la justice par laquelle Dieu nous justifie par la foi. Alors, je me sentis en homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même, à l'instant même. L'Écriture m'apparut sous un autre visage. Je parcourais ensuite des Écritures telles que ma mémoire les conservait et je relevais l'analogie pour d'autres termes. Ainsi, l'œuvre de Dieu, c'est celle par laquelle il nous rend capables. La sagesse de Dieu, celle par laquelle il nous rend sages. La force de Dieu, le salut de Dieu, la gloire de Dieu, etc. Qu'est-ce que Luther vient de nous dire ici ? J'aimerais, pour tenter de le faire comprendre, prendre maintenant un exemple tout à fait prosaïque. Imaginez que vous ayez un oncle Philippe et que cet oncle vous donne, mettons, c'est un exemple tout à fait familial que je vous livre maintenant, vous donne une horloge. Cette horloge, elle est chez vous. Vous pouvez, par la pensée, imaginer tel autre objet important qu'une personne chère vous a donné. Mais prenons, si vous le voulez bien, l'exemple de l'horloge d'oncle Philippe. Vous direz peut-être qu'il faut remonter l'horloge d'oncle Philippe, ou que l'horloge d'oncle Philippe retarde, ou qu'il faut peut-être faire réparer l'horloge d'oncle Philippe. Mais cette horloge d'oncle Philippe, à qui appartient-elle ? Non pas à cet oncle Philippe qui vous l'a donné, mais elle est à vous. Alors ça peut être la cafetière de la tante Irène, ça peut être la montre que vous a donnée votre ami, peu importe. Vous avez cet objet chez vous. Et je suis sûr que si vous pensez à votre chez vous, vous verrez quelque part en pensée un objet que quelqu'un vous a donné, que vous appelez de cette façon-là. Ça, c'est le vase de grand-maman. Et ce vase de grand-maman, il est à vous. Vous continuez pourtant à dire le vase de grand-maman. La découverte de Luther, je crois que ça n'est pas autre chose. Il découvre que quand dans la Bible il est question de la justice de Dieu, on ne nous parle pas d'une qualité de Dieu en vertu de laquelle il va nous juger et de toute évidence nous condamner parce que nous sommes des pécheurs, mais cette expression désigne quelque chose que Dieu nous a donné et que nous appelons la justice de Dieu parce que ce quelque chose provient de Dieu. Les théologiens qui aiment employer des termes compliqués parlent ici de justification par la foi. Mais au siècle dernier, un grand théologien, allemand d'abord, états-unien ensuite, je pense à Paul Tillich, a relevé que cette expression était tellement compliquée que les étudiants en théologie à son époque ne la comprenaient plus. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ils la comprennent, mais toujours est-il que la découverte de Luther est celle-là. Alors ça marche très bien en allemand. Ça marche en latin, puisque Luther écrit et pense en latin.
Justit ia Dei.
Ça marche aussi en grec.
Dikaios synodou Theou.
En français aussi, mais Luther ne savait pas le français. Dans les langues slaves, à la vérité, ça marcherait moins bien. Et en tchèque, je crois que ce serait un peu différent. Mais Luther comprend que la justice de Dieu, c'est le cadeau de sa justice que Dieu nous fait. Et voyez comment il continue. La sagesse de Dieu. Quand je vois dans la Bible qu'il est question de la sagesse de Dieu, cela désigne la sagesse que Dieu me donne. Et Luther va plus loin. La gloire de Dieu. Et tout à coup, on sent le sol s'effondrer sous nos pieds. La gloire de Dieu, c'est notre gloire que Dieu nous donne. Luther ne le sait pas, mais il retrouve par là une formule que l'évêque de Lyon, Irénée, avait prononcée au IIe siècle quand il a dit que la gloire de Dieu, c'était l'humain vivant. Et Luther dira dans les années 30 que cette découverte est tellement saisissante qu'il n'est pas sûr de bien l'avoir comprise lui-même. Voilà l'étendue de ce que Dieu nous donne. La justice de Dieu nous a été donnée. À partir de là, on peut expliquer pourquoi Luther n'a plus peur de se présenter devant Dieu au jour du jugement. Non pas qu'il aurait accumulé un certain nombre de bons points auprès de cet instituteur céleste, mais parce qu'il a reçu de Dieu la justice, et qu'au nom de cette justice, il peut se présenter en lui sans avoir peur, en disant « Voici ma justice, d'ailleurs tu devrais être au courant, puisque c'est toi qui me l'as donnée. » La justification par la foi, voilà la pierre angulaire de ce message de la réforme, ce message de libération. Ne plus avoir peur face à Dieu, parce que Dieu nous a tout donné. Et dans ce tout, il n'y a pas seulement la vie, il n'y a pas seulement le salut, il y a la justice, il y a la sagesse, il y a la force, il y a la gloire. Vous vous rappellerez l'horloge d'oncle Philippe, et vous trouverez sans doute d'autres objets équivalents qui vous permettront de vous rappeler ce que veut dire la justice de Dieu pour Luther. Ainsi donc, nous avons pu voir que la réforme, ça n'est pas une lutte contre les abus de l'Église. Mais au moins, me direz-vous, il y a une chose qui est sûre, c'est que Luther, c'est l'homme qui oppose les œuvres à la foi. Il y a d'un côté les œuvres qui ne servent pas à grand-chose et de l'autre côté la foi qui est solide. Alors pardonnez-moi, mais là encore, je ne crois pas qu'on rende vraiment justice à Luther en opposant schématiquement les œuvres et la foi pour la bonne et simple raison que quand Luther écrit en 1520 un texte qui s'appelle « Von den guten Werken » les bonnes œuvres, et bien dans ce texte, il commence par dire que la première des œuvres, la plus importante, c'est la foi. La foi est une œuvre. Pourquoi ? Eh bien parce que les œuvres bonnes, ce sont celles que Dieu ordonne. Or, le Christ nous commande de croire. C'est ainsi que Luther peut citer l'évangile de Jean au chapitre 6, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Et nous y voici. La foi est une œuvre, mais c'est une œuvre qui vient de Dieu. De même que la justice qui m'est donnée vient de Dieu, la foi vient de Dieu. C'est lui qui me donne la foi. Je ne peux pas moi-même me prétendre quelqu'un de bien parce que j'ai la foi, contrairement à celui-là qui ne l'a pas. J'ai la foi parce que Dieu me l'a donnée. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir de cela. Et c'est ainsi que, pour Luther, la foi est bel et bien une œuvre, mais c'est une œuvre qui vient de Dieu. Ce que dit Luther, d'une certaine façon, c'est que l'homme ne peut pas se sauver soi-même. Il reçoit le salut de cette puissance extérieure qu'est Dieu. L'homme ne peut pas faire, vous savez, comme ce baron de Münchhausen, au XVIIIe siècle. Celui qui, avec son cheval, est pris dans des sables mouvants, et dont on raconte plein de choses, en particulier qu'il s'est sorti des sables mouvants en se tirant soi-même par les cheveux. Eh bien non, on ne peut pas se sortir soi-même d'affaire des sables mouvants. Et c'est ainsi que Luther, s'il oppose d'une certaine façon les œuvres et la foi, oppose surtout ce que Dieu fait et ce que l'humain fait. La foi est une œuvre, mais c'est une œuvre de Dieu. J'arrive à la cinquième et avant-dernière des idées fausses que je me propose d'évoquer ici. On a, en particulier après l'anniversaire de l'année 2017, au moins l'impression qu'il y a avec la réforme quelque chose de sûr, quelque chose de solide, à savoir l'Écriture. Les réformateurs n'ont-ils pas constamment répété « sola scriptura » par l'Écriture seule? Tout cela est bel et bon, mais est-ce que l'Écriture, est-ce que la Bible, c'est un critère simple que tous pourrait comprendre? Bien sûr, les réformateurs traduisent la Bible. Bien sûr, ils la diffusent. Et on raconte que plus de 100 000 exemplaires de la Bible de Luther auront été imprimés par un seul imprimeur de Wittenberg dans le troisième quart du XVIe siècle. Mais cette écriture, comment la comprendre? Très tôt, les réformateurs vont quasiment en venir aux mains parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter l'Écriture. L'exemple le plus fameux de tous, c'est cette discorde, cette dispute qui oppose le réformateur de Zurich, Zwingli, au réformateur de Wittenberg, Luther. On est en 1529, 12 ans seulement après la publication des thèses, 8 ans seulement après le discours de Worms que j'ai cité tout à l'heure. Dans le château de Marburg, il y a un clash entre ces réformateurs. Tous sont d'accord pour dire « sola scriptura, sola scriptura ». Mais ils ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter les paroles par lesquelles le Christ a institué ce que les Allemands appellent l'Abendmahl, le souper, l'Eucharistie, la Sainte Cène. Pour Luther, quand Jésus dit, et ces gens parlent en latin parce que c'est la langue technique des théologiens du XVIe siècle, comme aujourd'hui l'anglais, la langue technique des physiciens et des chimistes. Quand Jésus dit « Hoc est corpus meum, ceci est mon corps », eh bien pour Luther les choses sont claires. Si Jésus a dit ici « est », c'est, ça ne veut pas dire autre chose que « est ». Ceci est mon corps. Zwingli répond à Luther, oui, sans doute, mais Jésus emploie le verbe être dans d'autres expressions pour bien montrer qu'il use de comparaison. Et Zwingli de dire à Luther, quand Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments, vous connaissez, ça ne veut pas dire que Jésus serait une vigne. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça ne veut pas dire qu'on marche dessus, mais cela veut dire. Et c'est ce que Zwingli explique à Luther. Jésus veut dire par là qu'il signifie la vigne, qu'il est par rapport à nous dans le même rapport que la vigne par rapport au serment, au sarment. Ou bien qu'il est pour nous comme un chemin, mais qu'il n'est pas en chemin avec des pierres en tant que telles ou des pavés. Et Luther se fâche en disant non. Ici, Jésus a dit dans ses mots importants, hoc est corpus meum, et ce est, il faut y tenir parce qu'il est dans l'Évangile, sola scriptura. Et Luther et Zwingli répond à Luther, oui, mais dans la sola scriptura, il est dit aussi que, etc. Et ce clash sera si violent entre les deux réformateurs qu'au moment de se séparer, Zwingli tendra la main à Luther pour prendre congé. Mais Luther gardera ses mains dans ses poches. Il regardera devant lui la main de Zwingli et lui dira, non, je ne vais pas vous serrer la main. Wir haben nicht den gleichen Gott. Nous n'avons pas le même Dieu, nous n'avons pas le même esprit. Alors voyez, Dans les années 1520 déjà, vous avez des réformateurs de part et d'autre du Rhin qui tous disent « l'écriture seule, l'écriture seule ».
Mais ils se rendent vite compte que cette écriture, il faut encore l'interpréter.
Et c'est ainsi qu'on commence à se rendre compte dans la réforme d'une vérité que les médiévaux connaissaient bien, à savoir que la Bible, d'une certaine façon, n'est pas donnée une fois pour toutes. Un très grand pape du début du Moyen-Âge, Grégoire le Grand, on est autour de l'an 600, qui a commenté un grand nombre de textes bibliques, notamment le livre de Job, a dit ces mots, que je cite d'abord en latin, mais que je vais traduire ensuite en français, « Divina eloquia cum legente crescunt ». Les paroles de Dieu grandissent avec la personne qui les lit. Les paroles de Dieu grandissent avec la personne qui les lit. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que ce que je lis dans la Bible aujourd'hui n'est pas forcément ce que j'y lisais moi-même il y a 20 ans. Et si Dieu me prête vie, ce ne sera pas forcément la même chose que ce que j'y lirai dans 10 ans. Parce qu'il y a une évolution. Je ne suis pas le même au fil des années, et cette Bible est quelque chose qui grandit avec moi. Et c'est ainsi que la Bible fait toujours l'objet d'une interprétation. En 1529, les réformateurs se sont très vite rendus compte qu'il ne suffisait pas de dire « sola scriptura » et de le répéter comme un slogan, mais qu'il fallait s'attaquer à interpréter la Bible. Et peut-être qu'il fallait commencer à admettre que d'autres que moi pourraient avoir ici ou là une interprétation différente de la mienne. Toute dernière idée fausse, parce que j'arrive au terme du temps qui m'a été imparti. Vous allez peut-être vous dire, bon, d'accord, la date de naissance de la réforme, ça peut se discuter. Le fait que Luther ne s'en soit pas pris aux abus de l'Église en tant que tel, on peut être d'accord. Qu'il faille interpréter la Bible aussi, mais reste une dernière chose qui, pour le coup, est solide, c'est que la réforme, disons ce qui est, ça a tout de même été une belle réussite. Eh bien, même là, je crois que si l'on veut être fidèle à l'histoire, on se doit de poser la question. Et peut-être bien que le terme même de réforme rappelle à jamais que la réforme a été un échec. Je vous le disais tout à l'heure, réformer, ça veut dire réparer. Quand Luther, quand Zwingli, quand Bucer à Strasbourg, quand Écolampade à Bâle, quand Pierre Viret à Orbe et à Yverdon, quand Calvin à Genève, veulent réformer, eh bien, ils veulent réparer l'Église. À aucun moment, aucun de ces personnages n'a eu la volonté de fonder une nouvelle Église. La fondation d'autres Églises, ben, ça vient après. Après la condamnation, par exemple, par Léon X de Luther. Mais à l'origine, la volonté des réformateurs est précisément de réparer l'Église. D'ailleurs, cette Église catholique, ils en font partie chez Calvin. Vous savez, les opéras Calvini ont été publiés au XIXe siècle, on les a mis maintenant sur informatique, donc on peut compter les noms. Dans les 60 volumes des opéras Calvini, je suis allé chercher le nombre de fois où Calvin emploie l'adjectif protestant. J'en ai trouvé 4 ou 5 occurrences sur 60 volumes. Jamais Calvin ne dirait « Je suis un réformateur protestant ». Jamais Luther n'a dit « Ich bin protestantisch ». Ça n'existe pas. Protestant, ça désigne d'abord les princes de l'Empire qui protestent contre Charles Quint. À propos de Luther, c'est vrai. Mais quand Calvin emploie cet adjectif protestant, c'est pour désigner ces princes allemands. Lui-même parle de la réforme évangélique. Et cet adjectif catholique qui ne veut pas dire autre chose qu'universel, tous les réformateurs le revendiquent. Voyez, Longtemps après la mort de Luther, 20 ans après, 2 ans après la mort de Calvin, en 1566,
les églises réformées de la Confédération helvétique décident de rédiger une confession de foi. On l'appelle la confession helvétique. Comme c'est la deuxième, on dit postérieure. Et bien dans cette confession helvétique postérieure, au chapitre 18, on confesse l'Église catholique. Évidemment qu'il ne s'agit pas de l'Église catholique romaine, celle que le concile de Trente a lui aussi tenté de réformer. Mais on confesse l'Église catholique. C'est dire que faire de l'histoire en général, et faire en particulier l'histoire de la Réforme, c'est d'abord, je le crois, une grande leçon de modestie. La Réforme a changé le visage de l'Europe en cela qu'elle a provoqué, qu'elle a autorisé une diversité confessionnelle. Le grand défi, ce sera dès lors, dans les générations qui suivront la première génération des réformateurs, le grand défi, ce sera de reconnaître, d'accepter autrui, même si cet autrui, cet autre, ne croit pas de la même façon que moi. Personne n'est maître de son salut, ça a été le message de la Réforme. Ce salut, ce sens donné à la vie, nous est donné de Dieu. Mais ce salut, tous le reçoivent. Personne ne possède la vérité. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. Mais tous sont invités à se faire les témoins de cette vérité. Voilà un défi que les réformateurs ont contribué à poser, mais qu'ils n'ont eux-mêmes pas accompli. Voilà un défi qui reste, je crois, aujourd'hui. Et quel que soit le curseur que nous plaçons dans cette reconnaissance de l'autre, parce qu'il n'y a pas, ça ne se pose pas seulement au sein du christianisme, mais aussi en rapport avec d'autres religions, tous sont invités à témoigner de la vérité. Personne ne peut jamais prétendre ici-bas détenir contre les autres l'exclusivité de cette vérité. Je vous remercie de votre attention.
Comment dire des choses profondes et peut-être compliquées de manière simple? La démonstration a été faite. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que nous allons repartir plus tard dans nos foyers avec le message de Michel Jean, quelque chose qu'il nous a donné. Et puis maintenant est venu le temps des questions. Je pense que vous en avez tout plein, peut-être qu'il y en a trop pour pouvoir les exprimer. C'est peut-être ça la question. Et vous voyez que Michel, comme guide touristique dans la ville d'Yverdon, mieux il est préparé, moins il en dit. Et on comprend. Parce qu'il nous a, depuis son petit promontoire de savant, constamment à l'étude, il nous a montré un magnifique paysage. Et dans ce paysage, nous avons tous notre place. Le temps a bien coulé depuis le moment où j'étais au cinéma du Bourg à Lausanne. Il y avait un film sur Luther qui était très idéologique. Il y avait derrière moi un sympathique confédéré qui ponctuait toutes les actions de Luther en disant « Raib Papiste ». Et maintenant, il n'y a plus de Raib Protestante, plus de Raib Papiste. Mais finalement, il y a des signatures importantes qui ont été faites par toutes les églises sur le salut par la foi. C'est ma première question.
Augsbourg, 1999,
L'Église luthérienne, l'Église catholique romaine se sont rendus compte que le débat du XVIe siècle, mais comme il arrive souvent, n'a pas été bien posé et qu'en fait les uns comme les autres sont tous prêts à reconnaître que le mouvement premier vient de Dieu. Et l'année dernière, ce sont les églises de la famille calvinienne qui ont rejoint cet accord symboliquement important. Mais je crois que là aussi, je parlais tout à l'heure, Bernard, de leçons de modestie. Les théologiens doivent toujours se rappeler, et puis rappeler le leur aussi, qu'ils ne font de la théologie qu'avec les instruments qui sont à leur disposition. Et ces instruments, ce sont des mots humains. Comment prétendre, avec les mots humains, qui sont forcément limités parce qu'ils dépendent d'une culture en particulier, dire quelque chose de définitif sur Dieu? Il m'arrive parfois quand des étudiants me disent « Non, enfin, il y a quand même des choses qu'on peut dire sur Dieu, enfin, il est trinité. » Fort bien. Mais je leur dis « Essayez d'imaginer que vous avez en face de vous quelqu'un, comme moi, qui a entendu parler de framboise, mais qui n'en a jamais mangé. Décrivez-moi, s'il vous plaît, le goût d'une framboise, ça m'intéresse beaucoup. » Ces étudiants commencent à me dire « Alors, ben, c'est un peu comme une fraise, mais en plus sucrée. » « Ah bon, je comprends. Je prends un peu de fraise, j'ajoute du sucre, et j'ai le goût de la framboise. » Non, c'est pas ça. C'est peut-être un peu acidulé, comme s'il y avait quelque chose un peu citronné. Ah oui, j'ajoute quelques gouttes de citron, et aussitôt, c'est donc ça que vous appelez le goût de la framboise. Ils se rendent à l'évidence, mais on peut faire cette expérience pour toutes les choses de la vie, que nos mots humains sont tellement imparfaits que nous n'avons aucun mot qui nous permet d'expliquer à quelqu'un la différence entre le goût d'une fraise et le goût d'une framboise. D'accord. Et nous aurions la prétention, nous pauvres humains, qui ne savons pas expliquer le goût d'une framboise, de dire sur Dieu quelque chose de définitif. Donc là aussi, il faut prendre de la distance et puis se rendre à l'évidence que quand l'autre me parle de sa foi, il y a d'abord là derrière une expérience de vie qui n'est pas celle que j'ai faite moi et que je dois m'ouvrir à lui, puis dire, ben voilà, c'est ton expérience, ça n'est pas la mienne, tu vois les choses comme ça, moi je ne les vois pas tout à fait de cette façon-là, mais dire cela, ça n'est pas encore dire j'ai raison et tu as tort, et ça n'est surtout pas dire tu mérites d'être brûlé comme un hérétique.
Une question, une autre. On vous envoie le micro.
Oui, au plan de l'anecdote historique, vous nous avez laissé au moment où Luther demandait une soirée de répit pour la réflexion. Et le lendemain, à votre avis, qu'est-ce qui lui a permis de sauver sa peau? Comment est-ce que ça s'est passé?
Avant, Luther a resté très très gros. S'il était resté plus longtemps, il aurait connu le sort qu'un peu plus d'un siècle plus tôt, Jan Hus avait connu à Constance. D'ailleurs, quand il est sorti du palais impérial, il a entendu des voix crier « Ins Feuer mit ihm ». On pourrait traduire ça par « au feu ». Mais il se trouve que Luther bénéficie de la protection politique et militaire de l'électeur de Saxe. Cet homme se rend compte que ça commence à sentir le roussi. Donc il fait sortir Luther. Et Luther est accompagné par les gardes armés de l'électeur de Saxe. Il rentre à son auberge. Et très rapidement, l'électeur va organiser la fuite de Luther. Alors il va faire croire que Luther aura été kidnappé. Parce qu'évidemment, Luther va être condamné. C'est d'ailleurs Schinner, l'évêque de Sion, qui a rédigé l'acte de condamnation de Luther que signera Charles Quint. Et puis on dira à l'électeur, ben, il est condamné, maintenant il faut nous le livrer. Et puis l'électeur dira, ben, écoutez, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, malchance, sur le chemin du retour, une bande de bandits nous a attaqués et ils ont kidnappé Luther. Nous ne savons pas ce qu'il est arrivé de lui. Mais Luther était sous bonne garde dans le château de la Wartburg. Et c'est là d'ailleurs qu'il a traduit le Nouveau Testament en allemand. Ça paraîtra l'année suivante, en 22. Même ses amis à Wittenberg
ne savait pas ce qu'il était devenu de Luther. Certains disaient il n'est pas mort, d'autres disaient on n'a pas de nouvelles de lui, il est sans doute mort, il est parti à l'étranger, il est dans une prison quelque part, on n'en savait plus rien. Donc ce qui a permis à Luther d'avoir la vie sauve, ça a été la puissance politique.
Autre question. J'espère que vous n'allez pas peur de vous faire kidnapper en sortant du château ce soir.
D'abord, merci monsieur de cette passionnante conférence. Vous avez dit dans votre introduction que la question se posait la fin du Moyen-Âge et du début de l'âge moderne. Et quand on reste, il s'agit pour Luther de lutter contre une certaine situation de l'Église chrétienne catholique. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que le contexte social de l'époque, le Moyen-Âge, etc., a-t-il joué un rôle dans l'orientation de Luther?
Oui, bien sûr. Le Moyen-Âge c'est un de ces concepts qui sont tellement vagues qu'on ne sait pas très bien qu'en faire. D'abord, c'est une période qui aurait duré 1000 ans. Entre Duoda, une femme de l'époque carolingienne au 9e siècle, et puis Lorenzo Valla, un humaniste italien du milieu du 15e siècle, mais il n'y a pas des mondes qui les séparent, mais des univers. Et puis tout ça, ça s'appelle le Moyen-Âge. Donc, quand on dit la mentalité médiévale, on peut se méfier, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il est vrai que nous sommes à ce moment-là, à une époque où il y a un certain nombre de changements, et après coup, on pourra se dire, ben tiens, là, il y a quelque chose qui a changé. Premier de ces changements, on a inventé une technique qui permet de diffuser les textes de façon beaucoup plus efficace. C'est Gutenberg, c'est l'imprimerie. Deuxième changement, la vision qu'on a du monde change complètement parce que un type complètement cinglé, qui s'appelait Christophe Colomb, est allé en Inde et il a trouvé un autre chemin. Il croyait être arrivé en Inde, mais il a découvert un continent qu'on ignorait totalement auparavant. En 1516, pour la première fois, quelqu'un fait le tour du monde en bateau. C'est Magellan. Et on est exactement à l'époque de Luther. Donc la vision qu'on a du monde change complètement. Il y a aussi un autre changement intellectuel, c'est tout ce qu'on appelle le mouvement de l'humanisme. On s'intéresse aux textes, on veut comprendre les textes, et on veut les comprendre dans la langue même où ils ont été écrits. Pour Erasme, il faut remonter à la source. Ad fontes, retour aux sources, disent les humanistes avec Erasme. Il ne faut pas se contenter d'une traduction latine de la Bible, la Vulgate. Il faut apprendre le grec. Apprendre l'hébreu. Et le grand regret d'Erasme, c'était de se dire, mais bon, on a les textes en grec pour le Nouveau Testament, c'est pas mal, mais n'oublions pas que Jésus a parlé en araméen, et on n'a pas les textes. Ce serait bien d'avoir les textes, les paraboles de Jésus en araméen, mais on ne les a pas. Donc il l'a beaucoup regretté. Mais ça, ça a été un changement de compréhension des choses phénoménal. Alors, Luther intervient précisément dans ce bouleversement. Et dans tout bouleversement, il y a beaucoup de choses qu'on doit à la période d'avant, et puis il y a aussi des nouveautés avec cette période qui commence. Mais tout s'enchevêtre et s'entrecoupe. Impossible de dire, comme Harnack, c'est ce jour-là, à cette minute-là, que le Moyen-Âge a terminé. Mais je crois que ce sont des disciplinaires que vous avez préparés qui incitent les gens à pouvoir sortir rapidement d'ici.
Moi, j'avais juste une question à propos de la traduction de la Bible. Qui pouvait lire la Bible à l'époque de Luther? Au moment où elle était traduite, est-ce que ça fait vraiment que beaucoup de monde accès à la Bible plus qu'avant, parce que finalement Tout le monde allait pas à l'école à cette époque-là.
Ah bon, c'est une très bonne question. On pense que dans le premier quart du XVIe siècle, il y a sur le territoire de l'Allemagne une personne sur 20 qui sait lire et écrire. Le 5% de la population. Et c'est considérable. Voyez, nous sommes peut-être une centaine dans cette pièce. Imaginons que 5 personnes parmi nous peuvent lire la Bible. Alors, si vous, vous savez lire la Bible, mais que vos voisins ne le savent pas, ils vont venir vers vous et vous allez leur faire la lecture. Donc, voyez, si, comme aujourd'hui, les journaux disent, on imprime à tant d'exemplaires, mais nous avons 2 fois plus de lecteurs. Parce que chaque fois qu'un exemplaire de 24 heures de l'Ouest vaudois est imprimé, ben, il y a au moins 2 ou 3 lecteurs. Eh bien, au XVIe siècle, c'est plus encore. Pour la bonne raison qu'on ne sait pas très bien comment occuper ces soirées, la télévision est en panne, il n'y a pas d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit préparer des conserves pour l'hiver. Ben, quelqu'un, à la lumière d'une chandelle, peut lire à une dizaine de personnes qui sont là autour. Et c'est ainsi qu'on considère que vers 1520, à peu près tout le monde en Allemagne avait entendu le nom de Luther. Et beaucoup avaient entendu quelques textes de Luther qu'on leur avait lus. Alors par la suite, la diffusion de la Bible va stimuler l'apprentissage de la lecture. Tout le monde avait, d'abord avec le Nouveau Testament, que Luther publie en 22, il y aura la Bible de Zurich en 32, puis il y aura la Bible de Luther en 34, et puis du côté de la réforme française, il y aura la Bible d'Olivetan en 1535, imprimée à Neuchâtel. Tout cela va stimuler dans les familles l'apprentissage de la lecture. Mais même si au début, tout le monde ne sait pas lire et écrire, ceux qui ne le savent pas entendent les autres lire et ont envie d'apprendre aussi.
Peut-être qu'il y a une question fondamentale, ceux qui ont étudié les livres de psychologie ou psychanalyse, ce qui s'est passé chez Luther, qui se sentait coupable et menacé des feux éternels de l'enfer, et qui tout d'un coup découvre la joie qu'il est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Quelqu'un a essayé d'allonger Luther sur le divan des psychanalystes, mais c'est très difficile de faire de la psychanalyse des gens qui sont morts. Luther a sans doute fait une expérience. Cette expérience, on ne peut pas forcément la dire. Alors, on racontera après coup que d'abord, il a eu peur de mourir pendant un orage et qu'il a fait le vœu à Sainte-Anne, la mère de Marie, d'entrer au couvent si jamais il avait la vie sauve. Et puis, il a eu la vie sauve. Et puis, il avait peur. Comme prêtre, quand il a dû célébrer sa première messe, il disait que ses mains tremblaient parce que c'est terrible de tenir entre ses mains le corps du Christ. Quelle responsabilité. Et puis, Luther est un homme angoissé et qui raconte lui-même que cette notion de justice de Dieu le terrorise. Et on est encore à l'époque où, vous voyez par exemple les gravures de Dürer, le monde entier est rempli de démons. Quand Dürer dessine, ou grave plutôt, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la guerre, la famine, la misère, la lèpre, on ne sait plus, eh bien, c'est quelque chose de terrible. On vit dans cette peur-là, et Luther mène un combat intérieur pour essayer de comprendre cette peur, et il découvre que l'Évangile est précisément la clé qui permet d'aplanir la peur. Et que cette notion de justice de Dieu, plutôt que de l'utiliser pour dessiner un Dieu qui va nous juger, et donc nous condamner, cette justice de Dieu, c'est d'abord un don. Alors, s'il y a une conversion de Luther, elle est sans doute dans ce retournement de la chose. Comprendre quelque chose de façon tout à fait autrement. Une autre lecture, des mêmes textes pourtant. Et alors, à partir de là, une fois qu'il aura découvert ce que c'est que la justice de Dieu, eh bien, il sera prêt à mettre au feu le carton jaune qu'il a reçu de Rome.
Une question. À l'époque de Luther, la diffusion de ces informations, justement, de ce qui se passait, se faisait au travers des églises, ou comment les gens informaient le peuple en Allemagne?
La prédication est un vecteur d'information très important. On entend comme ça ces informations. Et puis, il y a raconter des rumeurs, enfin des informations inexactes. On sait qu'il y a eu une guerre à tel endroit, on sait qu'il y a eu une peste à tel autre endroit, parce que des gens nous ont dit ça, mais on ne le sait pas très bien. Les marchands sont des gens qui donnent des informations. Le marchand, c'est celui qui se déplace, et puis qui vient vous dire, en Italie, voilà ce qu'on dit à propos de l'hérésie. Ce marchand peut dire, j'ai appris qu'en France ou en Angleterre, on a brûlé des gens qu'on considère les disciples de Luther. Et tout cela se diffuse relativement rapidement, mais évidemment toujours à la vitesse de la personne qui marche ou du cheval qui trotte. Mais en quelques semaines, d'un côté à l'autre de l'Europe, on peut disposer d'un certain nombre d'informations. Vous voyez, quand Luther brûle le carton jaune, 15 jours plus tard, il a la réponse du pape. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a informé le pape à Rome de ce qui s'était passé, et puis le pape a pu envoyer son carton rouge. Donc les choses vont relativement vite. Bon, évidemment, ce n'est pas le SMS. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà écrit il y a 45 secondes, tu ne m'as pas encore répondu. Là, on vit dans un autre temps au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Mais on a bel et bien pourtant ces informations.
Alors moi j'ai bien aimé l'image de l'horloge de l'oncle Philippe.
Philippe, oui, il a vraiment existé. Hein. Quelqu'un peut en témoigner ici.
Alors ça illustre bien cette démarche intérieure finalement de Luther et que l'accent est bien placé là-dessus. Mais je pense que parallèlement c'est aussi ce qui l'amène à s'opposer à son Église.
Oui.
Il me semblait que vous disiez que non, en fait, c'est ça. Ah, de comprendre que ça, vous disiez que ça ne le concernait pas.
Cette opposition, c'est pas la chose première qui le motive. Luther n'est pas quelqu'un qui dit, regardez comme le pape vit mal, au lieu de prêcher l'évangile, le pape va faire la chasse à cour. Et le pape Léon X aimait bien faire la chasse. Bon, c'est pas ça qui le motive. Ça, ce sont des détails. Mais à partir du moment où il a découvert ce qu'est la justice de Dieu, et à partir du moment où il a été condamné par l'Église, à ce moment-là, il dit ben, « j'ai le choix entre cette justice de Dieu que j'ai découverte, et puis l'Église de Rome. Je choisis la justice de Dieu. » Et puis, il a bel et bien été condamné, et c'est à partir de cette condamnation qu'il y a une autre Église. Alors évidemment, si le pape de l'époque ne s'était pas appelé Léon X, mais par exemple, le pape François, les choses se seraient de toute évidence passées totalement différemment. Et on n'aurait même pas eu besoin de se rencontrer à Augsbourg en 1999 parce qu'il n'y aurait pas eu de séparation entre les deux.
Merci. Vous avez fait allusion au délice culinaire. Est-ce qu'il est vrai qu'au Concile de Constance, qui a duré 4 ans, 14, 18, les gens étaient tellement bien nourris qu'ils ne voulaient pas repartir chez eux, puis qu'on a fini par la couper les vivres?
Je ne connais pas ce détail du Concile de Constance. Bon, il y a quelques années, on parlait beaucoup de choses sur le Concile de Constance. J'ai lu un livre qui disait Constance, à ce moment-là, c'est Rome. C'est un livre que j'ai vu en allemand, Rome am Bodensee, Rome au bord du lac de Constance. Non, tout Rome s'était déplacé pour le concile. Non, à partir du moment où en 17, on a élu un pape, Martin, les choses ont... Non, pas vous, Martin V, hein, eh bien, les choses se sont terminées. Et puis... Mais j'avais entendu cette chose-là à propos de certains conclaves, en disant que pour abréger les discussions, il faut un peu moins nourrir les cardinaux.
Alors peut-être c'est une manière de dire qu'il faut peut-être qu'on abrège un peu, mais pour aller manger un petit apéritif, je donne la parole à Elisabetta, qui a fait un immense travail d'information, d'illustration. Je crois qu'il y a une question que quelqu'un a posé tout à l'heure, l'actualité de Luther aujourd'hui dans un monde qui produit beaucoup d'œuvres, beaucoup d'exigences professionnelles, commerciales, financières. Donc on est dans un monde où on se réalise à travers beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, beaucoup de créations. Si Luther revenait, il dirait quoi?
Je vais le dire en deux phrases, parce qu'on ne peut pas répondre, vous avez bien raison comme ça, mais
peut-être qu'il mettrait en avant la valeur de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a de la valeur? Alors, deux grilles de lecture. On peut dire que la personne a de la valeur par elle-même, intrinsèquement, diront les philosophes. Par exemple, j'ai de la valeur parce que je gagne beaucoup d'argent. J'ai de la valeur parce que je dispose d'un réseau de relations importants. J'ai de la valeur parce que j'ai un certain nombre de capacités. Voilà une façon de définir les personnes. Et puis en fonction de ça, je dirais, celui-là, qui n'a aucun réseau parce que c'est un réfugié qui arrive de Syrie ou je ne sais pas où, a évidemment moins de valeur que moi qui dispose de ce vaste réseau. Et puis celui-ci qui n'a pas un centime en poche a moins de valeur que moi qui suis multimillionnaire. C'est une façon de percevoir la valeur de l'humain et c'est d'ailleurs la façon que globalement le monde actuel a de mesurer la valeur des personnes. Avec Luther, on aurait, je crois, un retournement de la situation. Ce qui fait la valeur d'une personne n'est pas à chercher dans la personne elle-même, mais à l'extérieur de cette personne. Et Luther vous le dirait de la façon suivante. La valeur d'une personne en tant que telle est nulle, mais elle est infinie dans la mesure où c'est Dieu qui lui confère cette valeur. C'est-à-dire, si j'ai de la valeur, c'est pas parce que je sais bricoler deux, trois choses. Si j'ai de la valeur, c'est parce que je suis quelqu'un aux yeux de Dieu. Et je crois que c'est cela qui confère la valeur à la personne selon Luther. Voyez cette petite fille de 2 mois qui a été très attentive, hein. Vous lui direz, hein, après, elle a dit tout. Début à la fin, elle a tout écouté attentivement, j'ai bien vu. Eh bien, ses parents vont pas dire qu'elle a de la valeur intrinsèquement parce qu'elle pèse 3,5 kg ou 4 kg. C'est pas ça la valeur de l'enfant. La valeur de cet enfant qui va croître en étant convaincu qu'il a de la valeur, c'est l'amour de ses parents pour elle. Et la valeur de l'enfant est à l'extérieur de l'enfant. Il est dans l'amour que les parents ont pour elle. Eh bien, c'est cela, je crois, que Luther dirait. Et je crois que notre monde doit vraiment entendre un truc comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui peux définir la valeur des gens, c'est Dieu qui définit cette valeur. Et à partir de là, je dois reconnaître que ce n'est pas la différence de surface sociale qui fait la valeur de l'individu, mais le fait que Dieu aime cette personne indépendamment de sa surface sociale. Voilà en gros ce que je dirais, mais maintenant, je ne sais pas ce que dirait Martin Luther, mais Bernard Martin, on va l'entendre peut-être.
Bernard Martin dit que la conférence a été mise sur pied grâce à nos échanges en tchèque. Ça a permis de préciser les choses. Le français aurait été bien mal entendu. Le fond, l'idée, si j'ai compris, il s'agit vraiment de la pendule de grand-mère. Tout ça. À toi.
Alors, avant d'aller écouter des classes que nous avons fait en l'honneur de Luther, puisque c'est une spécialité de Thuringe, donc le land natal de Luther, et de vous informer que le 26 avril, il y aura une conférence sur Élie Bertrand, qui était un pasteur, qui a beaucoup fait pour la culture également, pour la bibliothèque, pour le musée. Donc, ça rentre un peu dans la ligne de ces personnalités religieuses, mais qui font beaucoup aussi pour la culture et le développement d'une ville. Il y a un petit jeu religieux, œcuménique. Vous avez une petite expo et il y aura 2 gagnants. Un gagnant, il devra découvrir qui est le descendant supposé de Zwingli qui est présent dans cette salle. Non. Et l'autre, c'est il devra découvrir une pratique de la foi catholique, très belle pratique qui est mise en acte dans le canton de Fribourg. Et vous avez des indices dans l'expo. Ces deux gagnants vont gagner une visite individuelle, privée, d'un lieu culturel, je ne peux pas vous dire plus, mais d'un lieu culturel à Yverdon. Voilà, à vous de trouver. Et celui qui trouve, les deux personnes qui trouvent, le premier, le descendant supposé de Tsungli et cette pratique typique de la foi chrétienne, viennent vers moi et je les conduirai vers la personne qui va leur donner prochainement leur prix. Voilà.
Me reste encore, j'ai vu qu'il y avait un stand de librairie là-bas, genre, excellent livre sur la réforme. J'ai écrit un petit livre qui n'est pas sur le stand là-bas, paru chez un bon éditeur, vaudois, Cabedita, La réforme, matin du monde moderne. Il m'en reste ici quelques exemplaires au prix de 18 francs si cela intéressait l'une ou l'autre d'entre personne d'entre vous. J'ai arrêté de faire le marchand du temple.